10h26 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Puis c'est rendu une habitude le lundi parce qu'on dirait que Donald Trump, la fin de semaine, trouve toujours une façon de faire parler de lui. Bon, en fin de semaine, c'est pas nécessairement Donald Trump directement qui fait parler de lui. C'est un triste incident qui est survenu, quoi qu'on a évité le pire. Une personne qui a été atteinte par balle, mais avec son gilet pare-balles, s'en sort bien. Puis tu sais, on aurait peut-être de toute façon parlé de cet événement qui est survenu samedi soir, là, sur ce dîner des correspondants du côté de Washington aux États-Unis. Peut-être qu'on aurait parlé du discours de Donald Trump qui finalement là, n'a pas eu lieu. Mais dans tous les cas, on le rejoint. Georges Mercier, analyste politique international. Salut, Georges.
Salut, Max. Salut, Catherine.
Salut.
Trump, qui, comme je le disais, là, a fait parler en fin de semaine de lui, mais sans que ce soit directement par, entre guillemets, sa faute, là, il a vraisemblablement été ciblé par un tireur. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé au cours de la dernière campagne. On se souvient, ça avait passé à quelques centimètres d'un assassinat. Là. Son oreille qui avait finalement mangé une partie de la balle. Quel constat tu sors de ce qui s'est passé samedi soir, généralement?
Écoute, moi, ce qui me surprend, c'est pas qu'il y ait eu une tentative d'assassinat, c'est qu'il n'y en a pas plus en ce moment aux États-Unis.
Ah oui?
Parce qu'on est dans un régime politique où la rhétorique politique, elle est tellement élevée. Du côté des démocrates, chez certains démocrates, pas tous évidemment, mais chez beaucoup, beaucoup de militants, on présente l'administration et Donald Trump comme étant un tyran, un fasciste en puissance, un dictateur, quelqu'un qui voudrait quasiment abolir la démocratie américaine. Et dans ce contexte-là, alors que les contre-pouvoirs politiques fonctionnent pas trop, c'est-à-dire le Parti républicain n'oppose pas, ne s'oppose pas majoritairement aux ambitions de Donald Trump, même s'ils mettent en place des politiques qui sont assez sévères parfois, mais ça ne me surprend pas que certains militants très idéologisés se disent que la solution, c'est la violence. Et ça en dit beaucoup sur la nature du climat politique américain qui, en raison de sa polarisation et sa division, mène certains à penser prendre des actions comme ça.
Est-ce que la sécurité l'a échappé? Parce que là, on apprend dans les médias que le gars avait une chambre d'hôtel dans l'hôtel où avait lieu l'événement. Puis bon, mettons qu'on est 100% honnête, là, ça n'a pas passé proche qu'une balle touche Donald Trump. On s'entend, là, le gars s'est pas approché tant que ça de la salle. Puis des couches de sécurité, il y en avait quand même, il y en a plusieurs dans des événements comme ça.
Mais tu entends quand même très bien les coups de feu alors
non,
que tu es dans la salle. Il est quand même
puis,
assez proche.
Puis il a l'air d'avoir un certain niveau de panique qui fait qu'on se demande un peu bon, à quel point il y avait un protocole clair, à quel point tout on était préparé pour ça. La sécurité, là, tu échappes un peu selon ce qu'on peut entendre, à ton avis?
Ben, écoute, Max, tu dis que c'est pas passé proche. J'ai envie de dire que c'est même pas passé proche d'être passé proche. L'homme ne s'est pas rendu dans la salle. Il a été intercepté très, très, très rapidement. Tu sais, dans une nation comme les États-Unis, où vous avez des centaines de millions d'armes à feu en circulation, le risque zéro, c'est impensable. Et là, au contraire, la sécurité, elle a fonctionné. Dès lors que l'événement s'est produit, le président a été évacué des lieux. Évidemment, qu'il y a eu de la panique dans la salle, c'est compréhensible, parce que si vous assistez à un gala et des coups de feu de tir, vous voyez des agents armés courir dans la salle, bien sûr que vous paniquez. Est-ce que ça veut dire que la sécurité n'était pas suffisante? C'est une grande question. Moi, je suis pas certain qu'il y ait eu une faille de sécurité à ce niveau-là.
Moi, il y a une chose qui m'a surprise, par contre, c'est de voir qu'on a sorti J.D. Vance avant de sortir le président. Comment on l'explique, ça?
Ah, ça, c'est curieux. Je sais pas, il doit y avoir des protocoles au niveau des services secrets qui ont dû être suivis. Peut-être qu'il a été sorti avant Donald Trump parce qu'il était plus proche de la sortie ou pour une raison qui s'explique. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est l'ampleur des théories du complot qui entourent cette potentielle tentative d'assassinat-là. Parce qu'il y a même des gens qui disent « Les choses se sont passées si rondement que peut-être que c'était une mise en scène. » Donc, on a orchestré une fausse tentative pour aller faire des gains politiques, pour justifier telle ou telle politique. Et c'est ce genre de vidéo-là dont tu parles, Catherine, où manifestement, il y a quelque chose qui fonctionne pas. T'sais, on se dit instinctivement, c'est le président qu'on sort avant n'importe qui d'autre,
ouais,
qui alimente ces genres de théories-là en ligne. Moi, je pense pas qu'il y ait une vraie valeur dans ces théories-là, mais néanmoins, c'est le genre d'événement qui contribue à ce climat.
J'avais entendu des gens expliquer, ben Donald Trump notamment, qui expliquait que lui, il voulait pas sortir sur le coup, qu'il avait comme un peu rouspété aux ordres de quitter, puis quand il s'est levé, puis qu'on a voulu sortir, il est tombé par terre, puis il se relève pas vite, là.
C'était pas fluide.
Mais on a tellement critiqué Joe Biden pour son manque d'aptitude physique par moment, puis qu'il avait l'air... Là, t'as un Donald Trump écrasé à terre qui se relève pas, là.
C'était pas fluide, mais le bonhomme va avoir 80 ans. Hein. Donald Trump, ouais. C'est un vieil homme de plus en plus. C'est pas surprenant qu'il n'y ait pas les mouvements d'un athlète olympique.
Absolument.
Cela étant dit, il a peut-être été déçu sur le moment de Trump. Parce que peut-être qu'il avait l'intuition que la situation allait être sous contrôle et qu'il voulait savourer son moment comme il l'avait fait en Pennsylvanie lorsqu'il avait réussi, après être passé très proche de la mort, dans l'occurrence, à en tirer un cliché photographique qui aura animé sa campagne pour le reste de la campagne présidentielle. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il avait l'intuition d'en faire un moment viral, il n'a pas réussi, il s'est sorti trop lentement, mais voilà.
Et pourquoi c'était si important, ce dîner de la presse, cette présence-là de Donald Trump?
Ben, c'était significatif parce que les relations entre l'administration et les médias sont pas géniales. Il y a beaucoup de conglomérats médiatiques qui ont été vidés par des poursuites, qui ont payé des millions de dollars à l'administration ou à des causes proches de l'administration pour régler des différends. Donc, que Trump s'y présente, c'était significatif parce que ça voulait un peu dire qu'il revenait dans l'arène médiatique, qu'il cessait de les mettre complètement de côté, qu'il acceptait de se prêter au jeu. D'une certaine manière, là, pour les médias aux États-Unis, considérant qu'il allait faire un discours rough, comme il le dit, où il les aurait attaqués, peut-être que c'est pas une mauvaise chose qu'il ait pas pu donner son discours, parce que là, ça aurait fait des nouvelles, puis on aurait encore dit que le président américain s'attaque aux médias, s'attaque à la presse, etc., etc. Au moins, de ce point de vue-là, de manière très, très cynique, là, il n'aura pas eu la chance de s'y attaquer.
Trump, qui a profité de l'occasion assez rapidement pour revenir sur la nécessité, selon lui, de la construction de sa fameuse salle de bal à la Maison-Blanche en disant « Vous voyez, ça n'a pas été sécuritaire parce que là, on était à l'hôtel. Hein, ça ne serait pas arrivé si on avait été dans les lieux sécurisés de la Maison-Blanche. » Puis là-dessus, j'ai quasiment envie de me dire « Ouais, il y a peut-être une partie de Donald Trump qui a raison. »
Non, mais toute l'histoire autour de sa salle de réception, c'est une bonne illustration de ce qui se passe durant la deuxième présidence de Trump. Parce qu'on dirait que du côté démocrate, on est systématiquement opposé à tout ce qu'il pourrait mettre en œuvre. D'un point de vue purement réaliste là, ou pragmatique, que le gouvernement américain se dote d'une salle sécurisée où il peut tenir des événements de grande ampleur, c'est pas déraisonnable du tout. Évidemment, le problème, c'est qu'il brise des procédures, qu'il ne respecte pas les règles en place. Ça va trop vite, puis on bulldoze avant d'avoir le droit de construire. Ça, je l'entends, mais t'as raison, Max, de dire que d'une certaine manière, c'est pas l'idée la plus saugrenue. Un point là-dessus rapidement. Plusieurs analystes parlaient de récupération politique. Donc, ils essaient de transformer la tentative d'attentat, on ne sait pas trop encore, en justification pour sa salle de bal. Et là, les gens font comme s'ils étaient surpris. C'est pas surprenant du tout. Donc, Trump nous a habitués à être capable de convertir n'importe quel bad luck en quelque chose de positif qui pourrait lui servir éventuellement.
On change de sujet, Georges Mercier, mais on reste du côté des États-Unis parce que la première ministre du Québec, Christine Fréchette, rencontre un paquet de monde à Washington aujourd'hui. On prépare le terrain aux négociations de la CEUM. C'est quoi le rôle d'un premier ministre provincial dans ce genre de contexte-là? Puis à quel point ça peut être un terrain glissant? Parce que, tu sais, faut que tu respectes un peu la ligne de pensée de ton premier ministre du Canada, qui est Mark Carney. On a vu que Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, lui, des fois, faisait un peu à sa tête puis allait à l'encontre. Même chose avec Mme Smith, la première ministre de l'Alberta. Bon, on s'imagine que Christine Fréchette, avec la couleur beige qui lui va si bien, on l'imagine mal faire des grandes déclarations puis des grandes controverses. Qu'est-ce qu'elle s'en va faire à Washington?
Mais écoute, je pense que c'est très clair que la première ambition du voyage, elle n'est pas aux États-Unis, elle est au Québec. Elle veut nous montrer qu'elle est aux manettes, qu'elle est aux commandes, qu'elle prend la situation à cœur. Donc, c'est en partie une opération de relations publiques pour l'électorat québécois. Mais il y a un vrai risque, Max, parce que en ce moment, le Canada est en négociation avec les États-Unis, puis peu importe ce que dit Mark Carney, le Canada, c'est encore 13 économies et pas une seule. Dans ce contexte-là, les Américains ont intérêt, eux, à exploiter nos différences. Par exemple, est-ce qu'on veut privilégier la gestion de l'offre ou le secteur de l'automobile en Ontario? Puis dans la négociation, on a des arbitrages à faire. Le risque, c'est que si Mme Fréchette se rend à Washington, parle à des responsables et met de l'avant un peu trop fort les intérêts propres au Québec, ceux auxquels on ne voudra pas déroger, alors ça donne une prise potentielle aux Américains pour exploiter les différences canadiennes. Je pense qu'elle a vraiment un jeu d'équilibriste à faire, ne pas donner ces prises-là aux Américains, tout en parvenant à montrer aux Québécois qu'elle ne se range pas automatiquement derrière Mark Carney et que elle, ce qu'elle a à cœur, c'est notre économie.
Autre sujet, puis on y va un peu en rafale parce que je vois le temps qui file, puis il nous reste quand même une couple de dossiers. Mark Carney qui a annoncé ce matin la création d'un fonds pour un Canada fort qui investira aux côtés du secteur privé dans des projets d'intérêt national afin de créer de la richesse pour les Canadiens et Canadiennes d'aujourd'hui et nos enfants de demain. Et là, vous comprendrez que je reprends les termes exacts de Mark Carney qui sont bien beaux pour l'image puis qui sont très politiques. Cossé, ça veut dire ça. Concrètement, sur la création de ce fonds-là?
Ben, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça veut dire que Mark Carney veut se donner les moyens de mettre en œuvre des projets d'intégration canadienne. Il parle de nation building dans son discours. Donc, ce qu'il dit, c'est je veux prendre le Canada, disons, gommer un peu ses différences puis en faire une seule économie. Puis pour ce faire, j'ai besoin d'un véhicule d'investissement. Ce fonds souverain-là, ce serait ça. La question que je me pose, moi, c'est quels vont être les mécanismes de reddition de comptes? Est-ce que ça va être public, les opérations de ce fonds-là? Est-ce qu'il va être supervisé par la joute parlementaire, comme il devrait l'être? Ou au contraire, ce que le gouvernement fédéral veut faire, là, en l'espèce, c'est se créer un fonds avec des fonds propres qu'il va pouvoir utiliser selon sa pure discrétion, selon sa pure volonté, pour privilégier tel ou tel projet au détriment de d'autres. Et ça pourrait être un peu inquiétant d'un point de vue démocratique si le premier ministre du Canada, qui vient du milieu privé, hein, et qui, on ne le sent pas très, très à l'aise avec la joute parlementaire et avec le travail politique, politicien, s'il se crée sa propre caisse, sa propre tirelire, finalement, pour investir comme il lui semble, mais on le verra dans les détails de l'annonce.
Parce que ce qu'il fait, c'est vraiment de dire aux Canadiens, investissez votre argent ici au Canada. C'est cette image-là qu'on veut vendre. Puis utiliser un peu la notion de fierté canadienne pour aller remplir ce fonds-là.
Ben, tout à fait. D'ailleurs, on ne sait pas exactement d'où vont venir les revenus. Par exemple, la Norvège a un fonds souverain qui vient de son industrie pétrolière. On a la même chose en Arabie Saoudite. Donc, si on ne sait pas d'où viennent les revenus, c'est seulement des contributions volontaires. Ça s'apparente un peu à ce qu'on appelle les war bonds. Lors d'une guerre, parfois un gouvernement vend des obligations que les citoyens achètent pour soutenir l'effort de guerre. Si Mark Carney veut faire quelque chose de similaire, c'est assez cohérent avec sa rhétorique où nous sommes essentiellement en crise, le Canada, et il faut résister à la menace américaine de toutes les manières possibles.
En terminant sur un sujet dont on a parlé beaucoup ensemble dans les dernières semaines, qui est parsemé de haut et de bas, puis de haut et de bas, puis de on comprend plus ce qui se passe, puis de qui a le gros bout du bâton, puis de encore qu'est-ce qui se passe. États-Unis, Iran, on en est où ce matin? Là, je sais qu'il y a une rencontre qui va avoir lieu dans les prochaines heures du côté des États-Unis pour voir quelles sont nos options pour la suite. Il me semble que pour un conflit qui depuis des mois, et supposé finir super bientôt, là, ça commence à s'étirer pas mal.
Mais là, essentiellement, le conflit est gelé. Les deux opposants ne veulent pas bouger sur leur position. L'Iran ne veut pas rouvrir le détroit d'Ormuz sans si les Américains ne lèvent pas leur blocus. Les Américains ne veulent pas lever leur blocus si l'Iran ne fait pas de concessions sur le nucléaire. Ce qui est significatif aujourd'hui, c'est qu'il y a une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères iranien et Vladimir Poutine en Russie. Ce à quoi on assiste, c'est peut-être un renforcement des liens entre ces deux pays-là, qui sont objectivement des opposants à l'Occident. Mais ce qu'il faut bien voir ici, c'est que la Russie a intérêt, elle, c'était le seul pays du monde qui y a vraiment intérêt, à ce que le conflit se poursuive. Parce que grâce à la hausse des prix du pétrole, les Russes engrangent beaucoup, beaucoup d'argent en ce moment. Donc peut-être que ce que Vladimir Poutine dit aux Iraniens, c'est « nous allons vous soutenir, continuez ». À résister parce que ça leur profite à eux. Évidemment, c'est pas du tout ça qu'on veut de notre côté.
Georges Mercier, notre analyste politique internationale préféré. Je te souhaite une excellente semaine.
Ben, moi aussi. Bye bye.
Salut, Georges Mercier. Toujours un plaisir. C'est pas mal devenu notre tradition du lundi là, parce que, comme je disais en ouverture, Donald Trump fait souvent jaser la fin de semaine puis il se passe souvent un paquet d'affaires. Est-ce que ça a un lien avec le fait que les marchés boursiers ferment puis que là, c'est là qu'il choisit ses moments pour y aller de l'avant? Ouais, mais on pourra peut-être se poser la question ensemble dans les prochaines semaines.
Parce que c'est toujours un peu plus slow news les fins de semaine. Fait que là, lui, il est certain d'avoir une certaine couverture quand il fait ça.
Il y a peut-être un peu de ça aussi. Bref, dans les prochaines minutes, on va jaser un sujet qui a fait réagir pas mal quand on en a parlé ce matin avec les gars. On aime ça au Québec, hein, envoyer de l'argent au gouvernement. Ça nous dérange pas d'en envoyer toujours plus. C'est un sondage ce matin dans le Journal de Québec. C'est un sondage léger. C'est à peu près un Québécois sur deux qui dit « Hey, moi, payage, ça permet de mettre de l'argent dans nos infrastructures routières. Pas de problème, je suis pour ça. » Il me semble qu'on en paye déjà beaucoup. Fait que petite question à se poser. 88 971 1021 pour réagir par texto.
Le